sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Andréane.
En football, les enseignements de la sixième journée d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Le casting des prétendants s'affine petit à petit et le Gabon s'invite.
Les Panthères dans la course à la première place du groupe F à un point du leader ivoirien. Les protégés de Thierry Mouyouma, auteur d'un sans-faute lors de cette trêve de mars. 5 victoires en 6 matchs, des cadres qui portent l'équipe. Bref, le Gabon est une des sélections à suivre, estime Franck Simon, le consultant pour Radio Foot International.
Ils peuvent en rêver parce que effectivement ils font les points. Ils ont notamment battu les Seychelles facilement. Et puis derrière, d'aller s'imposer à Nairobi au stade Nyayo, où c'est jamais simple. Voilà, ça montre que voilà, ils ont sorti les muscles, ils sont en train de digérer. On est un an après l'arrivée de Thierry Mouyouma sur le banc de cette équipe nationale. C'est une équipe qui a énormément d'expérience dans toutes ses lignes. Quand vous voyez Ekwueli Manga derrière, vous voyez Biogo Poko, Mario Lemina, et puis devant Gaylor Kanga, Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga. Ce sont des garçons qui ont déjà vécu tellement de choses. Franchement, il faut les prendre au sérieux. Ça tombe bien parce que la prochaine fenêtre internationale mettra aux prises le Gabon et les éléphants de Côte d'Ivoire avec ce match retour, a priori à Franceville d'ailleurs. Donc ça sera pas simple pour les champions d'Afrique d'affronter cette sélection.
Franck Simon avec Sofiane Amazian. Prochain rendez-vous pour les Panthères le 3 septembre contre les Seychelles. Et puis une finale avant l'heure contre la Côte d'Ivoire le 6.
Autre prétendant dans le groupe I, les Comores jouent les troubles faites.
Avec un parcours inattendu, les Sélacantes deuxième derrière le Ghana peuvent rêver à une toute première Coupe du Monde inespérée il y a encore quelques années. La victoire contre le Tchad mardi a en tout cas ravivé la flamme et les supporters y croient dur comme fer. Reportage à Moroni, signé Abdallah Zembaba.
Ils ne sont plus en tête du groupe, mais les Comores restent dans la course. Deuxième avec 12 points, les Sélacantes surprennent encore et surtout, ils font rêver tout un peuple. Nassourdin Mohamed est supporter des Verts.
Oui, je suis confiant en tant que supporter. Tout est possible, on ne peut pas toujours dire que voilà, on va passer directement. Mais ce que je ressens, on ressent que le groupe est soudé, le groupe a envie de faire mieux. C'est ça le football, on aime toujours voir les petites nations déranger les grandes nations.
Une dynamique rendue possible par le travail de Stefano Cousine, le sélectionneur, et une équipe qui a su dépasser les crises pour retrouver son élan. Une évolution qui n'a pas échappé à Soadri Saïd, lui aussi supporter des Sélacantes.
En termes de bilan, c'est une satisfaction avant tout, car les Comores n'étaient jamais parmi les pays favoris. C'était le Mali et le Ghana. Il faut battre le Mali et faire un bon résultat contre le Ghana. Même un nul, ça peut faire nos affaires. Et je peux ajouter aussi que dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a aussi la possibilité d'être barragiste si on termine parmi les quatre meilleurs deuxièmes.
En septembre et octobre prochains, les Comores vont affronter le Mali puis le Ghana. Deux finales, deux chances de changer l'histoire. Au départ, l'objectif c'était la qualification à la CAN. Aujourd'hui, celle au Mondial 2026 est possible pour le plus grand bonheur de tout un peuple. Abdallah Mzembaba Moroni, RFI.
Allez, on termine avec du basket et deux nouveaux qualifiés pour l'afro-basket féminin.
Le Soudan du Sud d'abord, qui a décroché l'une des deux dernières wildcards. Les Sud-Soudanaises, troisième des éliminatoires de la zone 5, rejoignent ainsi deux autres nations invitées, l'Égypte et le Mozambique. Autre qualifié, la Guinée, qui profite du forfait du Cap-Vert. Les Guinéennes, quart de finaliste de la dernière édition, disputeront donc un 11e championnat d'Afrique. L'afro-basket féminin 2025, prévu à Abidjan du 25 juillet au 3 août prochain.
Antoine Grenier, vous revenez tout à l'heure à 7h13, heure de Paris.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Une trentaine de dirigeants attendus aujourd'hui à Paris où se tient un nouveau sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Objectif, défendre les intérêts des Ukrainiens et avancer sur la force de réassurance qui sera chargée de contrôler un éventuel arrêt des combats. Avancer aussi sur les garanties de sécurité destinées à dissuader la Russie d'envahir à nouveau l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est arrivé hier dans la capitale française et lors d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron, le dirigeant français a annoncé une nouvelle enveloppe d'aide à l'Ukraine de 2 milliards d'euros. Il sera notamment question de l'Ukraine lors de cette visite. Le ministre français des Affaires étrangères est à Pékin. Jean-Noël Barrot a plaidé hier pour un partenariat franco-chinois puissant face au contexte géopolitique. De nouvelles manifestations hostiles au Hamas se sont tenues hier dans la bande de Gaza. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Gazaville et à Beth Laya. Et dans le même temps, Israël a menacé hier d'élargir son offensive dans l'enclave palestinienne palestinienne si le Hamas ne libère pas les otages. Au Brésil, Lula dit ce jeudi espérer que justice soit rendue dans le procès de son prédécesseur Jair Bolsonaro. Il aura lieu, on l'a appris hier. Et puis la Corée du Sud, toujours en proie à de violents incendies, des feux d'une ampleur jamais vue, ont décrit ce jeudi les services de secours qui luttent contre les flammes. Depuis le week-end dernier, le bilan humain est passé à 26 morts et jusqu'ici, près de 36 000 hectares ont été ravagés. RFI, 6h48 à Paris. Tout de suite, c'est notre grand invité Afrique. Et ce matin, RFI vous fait entendre Christophe Lutundula, président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat de la République démocratique du Congo. Il est de passage à Paris pour une mission de travail conduite par le président du Sénat français. Et hier, il a été reçu par les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères. Christophe Lutundula répond aux questions d'Esdras Dikoumana.
Christophe Lutundula, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'être auditionné par la Commission des Affaires étrangères du Sénat français. Quel message leur avez-vous adressé ?
Notre message est simple. Il y a nécessité pour la communauté internationale de renforcer les sanctions contre le Rwanda et son président pour obtenir que la résolution 2773 du Conseil de sécurité, la demande unanime de la communauté internationale de cesser le feu, de retrait des troupes rwandaises de la RDC et de mise en œuvre du plan de démantèlement des FDLR, que tout cela soit appliqué, que ça devienne de réalité. La France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité. La France est un pays qui participe au leadership de l'Union européenne et avec lequel nous nous retrouvons au sein d'une communauté, la francophonie. Et donc, c'est normal que nous puissions visiter nos collègues pour les sensibiliser afin que la France assume totalement ses responsabilités, que le gouvernement français participe activement à cette démarche-là.
Alors, vous êtes ici pour donner ce message, hein, alors que le processus de Luanda que vous aviez entamé en tant que chef de la diplomatie congolaise vient de se conclure par un échec. Pourquoi, selon vous ?
Je ne pense pas que c'est un échec. Le président Lourenço a accompli sa mission. Je crois que tout le monde oublie rapidement la mission qui a été confiée par l'Union africaine. C'était de maintenir le dialogue entre le Rwanda et la RDC pour résoudre les conflits qui les opposent. Et aujourd'hui, le président Lourenço, grâce à lui, on a obtenu des solutions acceptées par toutes les parties. Si le président Kagame n'a pas refusé de venir en Angola le 15 décembre, on aurait signé, on serait passé maintenant à la phase d'exécution.
Jusqu'ici, en fait, on avait un médiateur, hein, le chef de l'État angolais, un président très influent sur le continent africain, qui a finalement jeté l'éponge et qui va être remplacé cette fois par un panel de 5 anciens chefs d'État qui vont suivre une feuille de route qui a été concoctée par l'EAC et la SADC. Est-ce que cela n'a pas rendu caduc ce qui avait été convenu avant ? Ce n'est pas un nouveau processus qui commence maintenant.
C'est ce qu'il faut éviter. Effectivement, le danger est réel de recommencer. Et là, vraiment, on ne le souhaite pas. C'est une crainte qui est réelle. L'autre crainte, parce que ça fait quand même un peu trop de cuisiniers. Je crois que c'est une première en Afrique qu'on ait une médiation à 5. Il faut craindre de la lenteur, alors qu'il y a une urgence à la fois politique, sécuritaire et humanitaire.
Je ne sais pas si vous avez constaté que, en fait, il n'y a plus de Nairobi à part, il n'y a plus de Luanda à part. Il y a un processus qui est fusionné aujourd'hui. Il y a une nouvelle feuille de route qui parle de négociations directes entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 aujourd'hui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Est-ce que le gouvernement congolais ne sera pas obligé de s'y plier ?
La fusion n'est pas une bonne chose, à mon avis. Luanda et Nairobi sont complémentaires, certes, mais sont distinctes. Donc, vous le fusionnez. Première conséquence, et qui est dangereuse, c'est que cela veut dire que on légitime les arguments du président Kagame, qui a toujours dit, pas de problème, c'est un problème entre Congolais, et lui, il est dédouané. La deuxième conséquence, et elle n'est pas des moindres, si ou tant qu'on n'a pas encore trouvé un compromis avec l'M23, l'armée rwandaise est fondée à rester en RDC. Alors que nous savons que le compromis avec l'M23 ne peut passer que si le président Kagame avalise, c'est-à-dire que s'il contient les desiderata du président Kagame, notamment d'avoir un espace d'exploitation économique, un espace d'influence. C'est ça les conséquences qu'on ne peut pas minimiser.
Et la question de la négociation directe entre le gouvernement et le M23, vous êtes pour ou contre ?
C'est un problème qui ne se pose pas. Pour quelles raisons ? Parce que si on entreprend une opération pour humilier le président Tshisekedi, pour humilier le peuple congolais, certainement je ne peux pas accepter.
Comment est-ce que le gouvernement congolais, selon vous, pourrait contraindre le M23 à rendre les parties qu'elle a conquises sans négocier?
Le M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise. C'est une évidence qui ne se discute plus. Que le Rwanda sorte de la RDC, parce qu'on nous dit que c'est un problème congolo-congolais, et que on nous laisse résoudre nos problèmes.
Christophe Lutundula, merci.
Merci beaucoup.
Le président de la commission des affaires étrangères du Sénat de RDC, Christophe Lutundula, il répondait à Esdras Dikoumana. RFI, votre chronique matière première. Et ce matin, on parle de la Chine, premier importateur mondial de viande. Près de 7 millions de tonnes importées en 2024. C'est beaucoup. Et ça s'explique par des besoins colossaux. Aucune production locale ne suffit à combler la demande d'une population de plus d'1,4 milliard d'habitants. D'ailleurs, en pleine guerre commerciale avec les États-Unis, Pékin a renouvelé les autorisations permettant à des centaines d'installations américaines de porcs et de volailles d'exporter vers la Chine. Claire nous explique.
Malgré son statut de géant économique, la Chine reste structurellement dépendante de ses approvisionnements étrangers. Depuis plusieurs années, Pékin essaye de réduire sa dépendance. L'agriculture est redevenue une priorité, mais les coûts élevés, les maladies animales et les difficultés dans les élevages empêchent le pays d'être autonome. Résultat, la Chine reste obligée d'importer et ses importations sont devenues stratégiques. Pour les États-Unis, le marché chinois est essentiel. En 2021, ils ont exporté pour 33 milliards de dollars de produits agricoles vers la Chine. Aujourd'hui, c'est un peu moins, mais ça reste élevé, 26 milliards de dollars. Même pendant la guerre commerciale de Donald Trump, les échanges ont continué. Ils ont même parfois augmenté, notamment en 2019, à cause de la peste porcine en Chine, comme l'explique l'économiste spécialisé des marchés agricoles, Jean-Paul Simier.
Il y a les discours, il y a les postures, et il y a le business, et il y a les obligations économiques. Et donc, si vous voulez, c'est un jeu un peu subtil, en fait, entre les deux pays. C'est je t'aime, moi non plus, dépendance réciproque, et donc, on continue à commercer, puisqu'on n'a pas trop le choix de parts et d'autres. En plus, je rappelle que le monde agroalimentaire américain est un des principaux soutiens au président Trump, donc, évidemment que c'est très délicat pour les États-Unis, et c'est très délicat aussi pour la Chine, puisqu'elle est dépendante de l'extérieur pour ses approvisionnements.
Mais Pékin cherche à varier ses fournisseurs. Le Brésil et l'Australie, grands exportateurs de viande, prennent une place de plus en plus importante. La Chine adapte ses achats selon ses besoins et parfois pour faire passer des messages politiques. Elle impose plus de taxes sur les produits dont elle peut se passer et préserve ceux qui lui sont indispensables comme le soja ou certaines viandes. Entre pragmatisme économique et stratégie commerciale, la Chine continue d'importer, mais à ses conditions.
Cléa Broderst pour la chronique matière première. RFI, tout de suite, on va écouter un extrait de notre grand reportage du jour. Et aujourd'hui, nous partons en Égypte pour ce grand reportage, le pays où la pratique de l'excision est interdite par la loi, mais pourtant largement pratiquée. Près de 9 femmes sur 10 en Égypte auraient subi cette mutilation. Dans le pays, résister et soigner les corps et les âmes est un véritable combat pour les femmes. Excision, la dignité mutilée des femmes égyptiennes, c'est un grand reportage d'Alice Moreno, extrait.
Ça m'est arrivé quand j'avais 8 ans. C'est ma grand-mère qui voulait que je sois excisée, alors que ma mère était réticente. Mais elle a gardé le silence car tout le monde la pratiquait et c'était pour elle une façon d'être pure et saine.
Heba, la quarantaine, a grandi dans un village de la région. Elle se souvient du jour où elle a subi l'excision.
Les adultes nous ont fait croire que quelque chose de bien allait se passer. Ils nous ont apporté des robes et des bonbons et nous ont dit qu'on nous ferait quelque chose qui ferait de nous démarier, qu'on allait nous rendre purs. Nous étions heureuses. Je me souviens encore qu'on m'a offert une robe à pois vert. Et encore aujourd'hui, j'ai peur des vêtements à pois.
Une tradition essentiellement perpétuée par les femmes pour satisfaire, rassurer les hommes à l'heure du mariage dans une société ultra-patriarcale. Dans le village de Garagos, une petite organisation non gouvernementale, Ahl Baladi, propose des ateliers de sensibilisation aux habitants.
Le travail de l'association nous a ouvert l'esprit dans notre village. Nous avons hérité de l'excision de nos ancêtres. Je l'ai moi-même pratiquée. J'ai excisé ma fille quand elle avait seulement 1 an et demi. Mais cette mutilation a obstrué ses parties génitales. Lorsque je l'ai amenée chez le médecin, il m'a dit que ça ne se rouvrirait que le jour où elle donnerait naissance. C'est là que j'ai compris que c'était dangereux.
Le danger est tel que les fillettes meurent de l'excision à la suite d'hémorragies, d'infections. Quelques hommes, même s'ils sont rares, se mobilisent aussi, comme Khaled, l'un des travailleurs sociaux de l'association.
Je suis convaincu que c'est quelque chose de mauvais, parce que je suis marié à une femme qui a été excisée et notre vie sexuelle est compliquée. J'ai donc décidé de ne pas exciser ma fille. Nous sommes convaincus du bien fondé de la circoncision masculine, sur ce point pas de problème, mais pour les filles, il n'y a rien qui justifie l'excision. Ce n'est pas religieux.
Docteur Riam Hawad.
J'ai vu une femme excisée pour la première fois quand j'étais interne aux Émirats Arabes Unis. Elle souffrait d'une grave mutilation génitale. Je ne savais pas du tout ce que c'était, car on n'apprend pas ça à l'école de médecine. J'ai donc posé la question à un médecin-chef qui m'a expliqué ce que sont ces mutilations. J'étais très choquée. Je ne comprenais pas comment quiconque pouvait faire une chose pareille et je me suis dit que dès que je pourrais, j'aiderais ces femmes.
Elle rédige sa thèse sur le sujet et bien plus tard, en 2020, ouvre son centre de reconstruction.
Ce grand reportage d'Alice Moreno était écouté en intégralité tout à l'heure sur RFI à 11h10 et 19h40 temps universel et à retrouver sur notre application RFI Pure Radio et sur notre site www.rfi.fr.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Cameroun, le RDPC célèbre ses 40 ans. L'occasion pour le parti au pouvoir d'organiser des rassemblements à travers le pays en soutien au président Paul Biya et pour les militants d'appeler leur leader à briguer un 8e mandat. Vos réactions nous intéressent.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
A tout à l'heure sur RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
La malnutrition est l'une des premières causes de mortalité infantile dans le monde, surtout en Afrique subsaharienne. Comment y mettre fin ? Acteurs publics, privés et de la société civile proposent des initiatives locales pour y faire face.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.